Quel rebonjour sur l'antenne de Prince Actif, toujours en cœur, au cœur et en lieu du Forum des associations à Évreux, qui se déroule à la live exposition, ce depuis hier soir, petite nouveauté, cette nocturne, et jusqu'à demain soir. On vous rappelle que le tissu associatif du territoire, ô combien important, de la terre hébroïcienne, est présent. Il y a une grande partie des associations du territoire hébroïcien qui sont sur ce site. Et nous avons le plaisir depuis hier de recevoir certaines d'entre elles pour parler handicap, pour parler social, pour parler culture et sport. Aujourd'hui, plutôt plus précisément cet après-midi, on va parler culture, mais pas que, vous verrez. Je reçois des associations joueuses, des associations sonores, des associations, j'ai envie de dire, physiques et dans la gestuelle. J'y reviens dans quelques instants. En tout cas, on est en lieu et place du Forum des associations et on est content d'y être avec Principe Actif. En ma compagnie, j'ai le plaisir de recevoir Silvio. Silvio, une voix qu'on connaît déjà sur l'antenne. C'est vous, hein, il me semble.
Oui, j'ai deux jours répété. Ma mère, il m'avait dit Silvio, et j'ai répondu oui, maman.
Oui, maman. Eh bien, on dira oui, Damien. Merci, Silvio.
Tout à fait.
Silvio Gannet, professeur de théâtre à la Jeune Arc d'Évreux.
À la GIA.
Depuis de nombreuses années.
Oui, beaucoup d'années, à la Douloutière Nationale, partout quoi.
Voilà, et une figure hébroïcienne qu'on aime toujours recevoir avec un si bel accent et avec autant de déport et d'enthousiasme à sa pratique, le théâtre.
Le théâtre, c'est important parce que c'est un langage qui sert à tout le monde pour se communiquer un petit peu mieux. Il y a le langage non verbal, ça veut dire le corps, elle exprime pas mal de choses, et on travaille d'abord aussi. Bon, bref, je ne vais pas faire tout l'article, toute l'histoire du théâtre, et commencer l'époque de les Romains, ça va très bien.
Ouais, on va prendre le temps. Je suis en compagnie de Benoît Marguerite. C'est pas si souvent que ça que j'ai le plaisir de t'avoir au micro, parce que, pour le dire, je vais tutoyer, hein, c'est un copain en dehors de cette activité qui nous lie aujourd'hui. Professeur, j'ai envie de dire, très polyvalent, multicarte de la MJC d'Évreux.
Oui, bonjour Damien, effectivement. Alors moi, je suis professeur à la MJC d'Évreux de chant notamment, de tout ce qui est chorale, les pratiques vocales. Et puis je suis aussi responsable de cette belle école de musique qui accueille toutes les semaines plein de musiciens, petits et grands, de 18 mois jusqu'à 118 ans.
Ouais, garçons, filles, jeunes ados, hommes et femmes.
Voilà, tous les âges. Tout le monde, on accepte tout le monde. On a un plaisir à recevoir tout le monde toutes les semaines chez nous.
C'est le cas, et puis on est obligé de saluer ton acolyte Davy, qui m'a dit en plus de taquiner un petit peu. Hein. Je balance un peu ton collègue,
okay,
et je te charrie un peu. Je ne le pas. J'ai le plaisir aussi de recevoir Romain. Alors, Romain Courté, j'ai bien dit ? Courtès, excuse-moi Romain, je t'en prie, prends le micro, tu peux me reprendre. De l'association Sièvre m'était joué, qui dépend un peu de l'ALSM, hein, cette belle et grande association de Saint-Michel à Évreux. Sièvre m'était joué, Romain, tu en es le président si je ne m'abuse. Hein.
Exact. Tout est présenté avec exactitude, il n'y a pas de problème.
Eh bien, on va développer dans quelques instants. Et puis vous, bonjour Claude. Claude Kouvout, voilà, président de l'Évreux Bridge Club.
Exactement.
Voilà. On va parler aussi cartes. Hein. Il y a des ponts communs avec Romain, même si on ne les utilise pas de la même manière.
Sans doute. Donc, l'association Bridge d'Évreux est forte d'une centaine d'adhérents. Nous sommes un peu en errance, donc nous sommes actuellement dans les locaux de la Jeanne d'Arc, l'association Jeanne d'Arc d'Évreux.
En errance, c'est parce que vous cherchez justement...
Nous cherchons un local. Hein. Ouais. Nous avons perdu notre local, pour des raisons techniques, nous avons perdu notre local de Saint-Michel, où nous disposions de 400 mètres carrés. Et là, nous sommes réduits à une cinquantaine de mètres carrés sur l'association Jeanne d'Arc. Ça, on a bien résisté pendant l'été. Je ne sais pas comment ça va se passer à l'automne et pour les mois suivants.
Alors, c'est aussi une école, c'est pas qu'un club, hein, l'Évreux Bridge Club. Hein.
L'Évreux Bridge Club, c'est avant tout un club qui est affilié à la Fédération Française de Bridge. Donc, c'est un club où on joue la carte, bien évidemment. Le bridge se joue à deux. C'est donc chaque paire qui doit être ce qu'on appelle fité pour jouer correctement. Et on reçoit à tour de rôle d'autres paires avec lesquelles on se confronte pour sortir à la fin de chaque journée le classement du résultat d'un tournoi dans le club.
Ça veut dire que c'est beaucoup de parties avant d'avoir un classement.
Absolument. D'accord. Un classement. Et alors ensuite, il y a des compétitions qui sont soit locales, soit régionales ou nationales.
Donc, vous ne donnez pas la pelote.
On peut jouer à la belote accessoirement, mais ce n'est pas un club de belote, c'est un club de bridge.
Parce que je ne suis pas au courant, moi, Sylvio, il y a une acquaintance, il y a une familiarité entre ces deux pratiques.
C'est toujours un jeu de la carte, de toute
façon. Oui, bien sûr, mais est-ce que dans
les règles sont complètement différentes.
D'accord, il me semble bien.
En ce sens que dans la belote ou dans d'autres, beaucoup de jeux, ce qui compte, c'est le nombre de points que l'on a accumulés au cours de la partie, alors que là, on ne compte que le nombre de levées.
D'accord.
Peu importe la façon dont la levée a été réalisée, l'important, c'est de faire un nombre de levées. Et le nombre de levées doit correspondre au moins au contrat que l'on a décidé de jouer. Donc, il y a tout un système d'annonces. Certaines sont naturelles, d'autres sont plus artificielles, qui permettent d'accéder au niveau de la paire, en concurrence avec la paire annexe, au meilleur contrat probable. Et après, on joue la carte.
Ça veut dire que vous ne jouez pas à la belote.
Non, pas la belote. Mais nous savons jouer à la belote. Pour la plupart des bougers, ça joue aussi à la belote.
Non, c'est vrai qu'on connaît parce qu'on a Jeanne d'Arc, on a accueilli cette année. Et ils sont plus, les locaux sont plus grands. Ils ne font pas de bruit. Ils sont bien très, très, très polis.
Hommes et femmes, j'ai vu en passant sur le stand une vraie mixité présente.
C'est une activité mixte avec même une majorité de femmes.
D'accord. Est-ce que justement dans les duos qui sont fournis, là, vous disiez on s'affronte par paire,
oui.
On peut avoir une mixité ou alors on doit...
Il n'y a pas de règles. Alors, dans les compétitions, il y a effectivement des compétitions qui sont réservées aux paires mixtes ou aux paires dames, mais dans le jeu de la carte qu'on leur fait en tournoi, la mixité n'a pas d'importance.
Merci. J'ai oublié votre prénom, vous m'excusez.
Claude.
Merci. Sylvio, deux secondes quand même sur la présence aujourd'hui, parce qu'on va développer un petit peu justement sur le fait que ce soit presque essentiel, c'est ce qui va vous réunir tous les quatre, de jouer, de pratiquer, quels que soient vos univers, et les bien fondés de la chose. Sylvio, professeur de théâtre émérite, acteur vous-même, il y a de nombreuses années, j'ai pas envie de raviver les souvenirs, mais voilà, vous êtes une figure locale.
Je sais pas, on est connu, on avait des cheveux.
Mais on n'est pas encore vieux.
Je ne joue pas à la mélote.
On n'est pas encore vieux, Sylvio. C'est combien d'adhérents la section théâtre de la Jeanne d'Arc d'Évreux? Est-ce qu'il y a des catégories? Est-ce qu'il y a enfants?
Oui, d'abord, il y a les ateliers pour les enfants, les adolescents, et ça fonctionne très 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 bien, c'est les mercredis. Et après, il y a deux groupes d'adultes, parce qu'on a vu tellement d'adultes qui sont venus à les ateliers. J'ai ouvert un les lundis et un les mardis soir.
J'allais demander, est-ce qu'il y a justement des débutants ou alors des gens qui pratiquent
le sport? Oui. Écoute, de toute façon, moi, je ne forme pas des professionnels. Moi, les gens qui viennent chez nous, c'est un loisir. Ça veut dire que j'ai des élèves, il y a 7 ou 8 ans qui sont faits avec moi. Il y a des gens qui commencent demain. Il y a tout un engagement de la partie de les anciens, de les accueillir bien pour qu'ils soient un petit peu à l'aise, pour faire des improvisations, des travaux d'espace, des travaux de mime, comme les langages non-verbales que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a toute une ambiance que ça fait que les nouveaux, ils sont en confiance avec les anciens. Et ça passe très très bien, c'est comme une lettre à la poste. C'est carrément des années qu'on fait ça. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'humour. Parce que malheureusement, les drames, pour moi, c'est là. On est pas mal de
oui,
gens.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de familles de genres dans le théâtre et dans le spectacle.
Ben voilà, alors ça passe très, 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 très bien. Et j'espère que cette année, on peut faire un spectacle. Parce que malheureusement, l'année dernière, pour que tout le monde connaît, on ne peut pas faire des spectacles. On a répété quelque chose. Ben voilà, quoi. Et les moments qu'on était en confinement, j'ai des contacts en permanence avec les élèves. On a fait une visioconférence, on a fait des choses pour les accueillir de toute façon. Et c'est tout. Je ne peux pas parler plus parce que j'ai soif et je vais jouer à la vélote avec les gens
du bridge. Et il va être taquin. Benoît, on l'a survolé brièvement, des jeunes de tout âge, des jeunes ou des moins jeunes de tout âge. Il y a quand même des familles d'instruments représentées, parce que la famille des instruments, elle est vaste. Il y a quand même des spécificités dans cette école de musique où on touche quasiment tous les instruments.
Alors, on s'appuie essentiellement d'abord sur des instruments de musique actuelle, puisqu'on s'est autoproclamé école de musique actuelle depuis très nombreuses années. On a diversifié notre activité pour être aux côtés du conservatoire et pas être en concurrence avec le conservatoire. Donc, on est vraiment une école qui participe à développer les musiques actuelles. On a par exemple pas du tout d'instruments type violoncelle ou contrebasse. On a du violon, mais qui est utilisé pour jouer des musiques actuelles, par exemple. On a très peu d'instruments avant, mais on a quand même des cuivres comme le saxophone, pas partie de la famille des cuivres, mais qu'on peut associer quand même. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, des instruments qui sont quand même là pour les musiques actuelles, mais voilà, en complément de ce qui peut se faire à côté, quoi.
Merci pour ces petits points de précision. Très cher Romain, à Sièvre m'était joué, on balaye aussi pas mal de jeux. Moi, je me rappelle, j'avais découvert cet univers des Warhammer. Est-ce que c'est toujours d'actualité et si c'est le cas, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est et puis les autres éventails ou propositions de Sièvre m'était joué?
Alors, je vais commencer par l'éventail plutôt, histoire qu'on brosse un peu tout le panel. En fait, à Sièvre m'était joué, on est une association qui s'occupe essentiellement de différentes formes de jeux de plateau. Donc ça peut être des jeux de société, le jeu de société classique, l'image qu'on va avoir tous, c'est le Monopoly, même si c'est le jeu auquel on ne jouera absolument pas à l'association. Donc cette forme-là de jeu avec des pions, un plateau assez simple. Ensuite, on peut avoir également des jeux de cartes comme Magic l'Assemblée, qui est un jeu qui existe depuis probablement au moins jusqu'à ma naissance, peut-être même avant. On va également avoir du jeu de rôle. Sur table. Donc c'est un jeu qui va se jouer avec qui a un certain point commun avec le théâtre. C'est-à-dire, en fait, on crée une histoire. Il y a un maître de jeu qui anime une partie, qui raconte une histoire, et les joueurs interprètent des personnages. Ils ont une fiche de personnages qu'ils ont parfois créé eux-mêmes, et ils doivent gérer les réactions du personnage aux situations que propose le maître de jeu. Et donc, au fur et à mesure, on décrit les actions, et on interprète les rôles. On parle en personnage, c'est-à-dire on parle comme parlerait notre personnage, on explique ce qu'il ferait, pourquoi.
Ça veut dire qu'il y a un travail de préparation pour imaginer un scénario
il faut un petit peu de préparation. Un maître de jeu débutant va mettre pas mal de temps à préparer, un maître de jeu plus expérimenté, ça peut aller très vite. On peut même parfois partir en improvisation totale, ça m'arrive de temps en temps de le faire. C'est un peu plus, faut avoir un peu plus d'expérience, mais ça peut se faire. Et enfin, effectivement, il y a toujours des univers à la Warhammer, où là, c'est du jeu de figurines, donc le Wargame, ce qu'on appelle communément le Wargame, qui en fait est un jeu où on affronte deux armées ou des groupes plus réduits, donc là, ce serait du format escarmouche, et deux joueurs s'affrontent sur des règles sur lesquelles ils sont d'accord. Alors oui, Warhammer existe toujours pour répondre à la première question. Alors pour le coup, je crois que Warhammer est une licence qui a commencé bien avant ma naissance. Et à l'heure actuelle, ça bat son plein. Et pour même résumer et pour se donner une idée, malgré le confinement, où la boîte qui crée Warhammer, donc Games Workshop, est un des plus gros bénéfices pendant la période du confinement. Je crois que c'est un des quatre plus gros bénéfices au monde.
Ouais, les gens ont cherché des options pour s'occuper, et tant mieux que ce soit autour de pratiques ludiques. Juste une question, Romain, quand même. Les adhérents, les pratiquants de l'association de Sièvre m'était joué, ils ont leur jeu favori, ou est-ce qu'ils sont amenés justement il y a des organisations où tel jour, on a une thématique avec un jeu en particulier, ou alors il y a boîte à jeux quand on arrive à l'association et en fonction des forces vives, on va se lancer sur tel ou tel jeu. Comment ça se passe un peu le fonctionnement?
Alors, on est en fonctionnement très libre, c'est-à-dire on a effectivement un pool de jeux qu'on peut utiliser à l'association, qui appartient à l'association. Alors, on a un peu de tout, hein. On a même de la figurine qui appartient à l'association. Et si des membres veulent proposer des jeux qu'ils viennent d'acheter et les faire découvrir, c'est avec grand plaisir. Ils viennent avec leurs jeux qu'ils ont préparé un petit peu avant, qu'ils ont lu les règles, et ils expliquent. Et on improvise les parties en fonction d'eux. Donc ça peut être de tout, et on est prêt à initier des gens à de nouveaux jeux, toujours. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus.
Tu en es devenu président, je ne t'ai pas demandé. Tu es un ancien adhérent. C'est venu naturellement, en fait, ce statut de président, toi?
Oui, en fait, je suis adhérent depuis maintenant, c'est ma sixième année. En arrivant à Évreux, c'est la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis inscrit à Sièvre m'était joué, d'une part pour rencontrer du monde et me faire quelques amis, parce que j'étais dans une ville où je ne voyais personne.
On va y revenir.
Mais, et petit à petit, c'est venu, j'ai vu quelques-uns de mes amis devenir président, voir ce qu'ils faisaient, et puis à un moment, j'ai dit, personne ne veut être président, je
veux bien.
Voilà.
Merci à toi, Romain. comtesse. Il faut que je souligne le S, sinon je vais omettre de le dire à chaque fois. Président de Sièvreux m'était joué. Je repars avec vous, Claude. On l'a évoqué. Ce qui est chouette, c'est que bah voilà, il y a aussi une école derrière, mais le bridge, en fait, a plusieurs options de jeu. C'est-à-dire qu'il y a une règle française, il y a une règle américaine, il y a une règle québécoise, il y a une règle... Qu'est-ce qui se passe là pour le bridge, en fait?
Il y a plusieurs variations dans les enchères, je dirais, pointues. Dans les enchères basiques, on décrit sa main. On décrit sa main. Si on a du trèfle, on annonce du trèfle. Si on a du carreau, on annonce du carreau, etc. Si on n'a pas de dominante... si on n'a pas de couleur dominante, on va plutôt essayer de s'orienter vers un jeu sans atout. Mais il y a beaucoup de finalités dans le jeu, beaucoup de finesse dans le jeu pour être plus pointu sur le meilleur contrat auquel on peut atteindre. Donc là, effectivement, les Français, les Américains, les Anglo-Saxons, les Allemands ont des règles qui sont un petit peu différentes. Mais on peut fort bien jouer contre eux. Il y a une chose très importante au niveau du bridge, il n'y a pas de triche. C'est-à-dire que toutes les enchères, même si elles sont artificielles, doivent être comprises de tous les joueurs. Donc quand on fait une enchère qui est artificielle, on sort un carton alerte et les joueurs ont le droit de demander quelle est la signification de cette enchère.
Il n'y a pas de tour de passe-passe, de manches dans lesquelles on peut mettre des cartes.
Il n'y a pas d'entourloupe. Alors il y a eu des tricheurs, notamment des Italiens, mais ils ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés.
Aimez-vous, regarde la tête que vous avez, on vous connaît.
C'est pas bon ça.
En tout cas, j'ai bien saisi,
il y a un contrat qui est établi pour tout le monde. Voilà, on sait où on va.
On sait où on va, avec toujours une part. C'est un jeu de cartes, donc il y a quand même. Ça n'est pas une carte, ça n'est pas une certitude. Mais donc on a l'espérance de réussir, de gagner. 9 levées sur 13, par exemple, pour faire si on joue un contrat.
Je vous garde 2 secondes, Claude, c'est le sujet qui nous lie tous les 4 cet après-midi, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Qu'est-ce que vous pensez que cela provoque auprès de vos adhérents, le bridge
D'abord, c'est convivial, parce qu'on joue toujours, on est toujours associé à un partenaire, donc ça, c'est très convivial. À la table, tout le monde se connaît, quand on joue en club, tout le monde se connaît, donc à la fin de chaque partie, on commente les parties, et c'est vraiment très convivial, très libre, on discute librement de ce qu'on a fait, de ce qu'il aurait fallu faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire mieux, etc.
C'est un apprentissage quand même. C'est comme un apprentissage aussi.
Tout à fait.
C'est savoir les erreurs qu'on met. C'est exactement pareil. Hein.
En fait, l'apprentissage, c'est pareil. Quoi. Au bridge, l'apprentissage est permanent.
Eh bien oui, c'est ça.
On ne peut que se perfectionner. On apprend beaucoup de la qualité de jeu des autres, de nos adversaires, de notre partenaire. Donc, c'est un jeu où on est en perpétuel apprentissage.
En tout cas, des amitiés se sont créées, des gens se sont découverts et sont devenus proches.
On ne fait pas non plus que jouer au bridge de temps en temps, on fait aussi des réunions conviviales.
D'accord.
Hein, autour d'un repas, autour d'un pot.
Donc, il y a un vrai esprit de famille.
Tout à fait.
Très chouette à savoir. Silvio, moi je vous connais, mais certains parmi nos auditeurs ne vous connaissent pas, peut-être autour de la table non plus. Je sais que c'est très important pour vous, le lien humain, le don de soi pour donner envie dans sa pratique. Mais selon vous, qu'est-ce que ça leur apporte à vos jeunes ou moins jeunes pratiquants du théâtre de le club de la Jeanne d'Arc?
C'est ce que moi, la première chose que je dis, même avec les plus petits, je dis merci, et grâce à vous, j'apprends en permanence. Et ça, c'est partie de mon école, il était toujours seul. Même si je donne tout ce que je peux donner, mes connaissances, de marquer les erreurs, de les refaire les travails pour que ça va mieux, c'est toujours, pour moi, c'est l'apprentissage. Le moment que je me lève le matin, je sens ça. Et avec mes élèves âgés et plus petits, c'est exactement la même chose. Je ne suis jamais, mais je me sais toujours au même niveau qu'eux. Moi, je ne sais pas pourquoi moi je suis le prof ou la personne que j'appelle la mise en scène, etc. etc. Je suis en permanence à l'écoute. Et même, je demande à mes élèves qui me critiquent. Parce que, par exemple, il y a des fois que mes élèves me disent « Silvio, je ne comprends pas rien de tout ce que tu dis. Avec ton accent, je ne comprends rien de tout. Et non, j'ai toujours été rigolo comme tout, les symphones, ils sont carrément.
Silvio, il y a quand même peut-être parfois, là comme ça, de but en blanc, j'aurais imaginé que certains arrivent pour faire du théâtre, pour essayer de vaincre leur timidité, parfois leur difficulté à s'exprimer devant du monde. Ouais. Est-ce qu'on a parfois justement affaire à ce cas de figure ou des personnes qui viennent essayer de surmonter quelque chose?
Oui, justement, c'est ça. Justement, c'est
parce qu'il y en a qui ont envie de jouer, il y en a qui ont envie d'être sous les feux de la rampe.
Oui, mais pas tout le monde, il est à l'aise pour jouer.
Ben, voilà.
Parce que il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont timides, qui ont un problème de communication. Et l'entreprise, chez eux, etc. etc. Et moi, je vous jure qu'avec les exercices qu'on fait, les discussions qu'on fait, les petites connaissances qu'on fait, des gens qu'on ne connaissait pas juste qu'on arrive à l'atelier, et moi, deux mois, ils sont à l'aise. Ça commence à sortir des choses. Parce que moi, je fais des exercices qu'eux, ils ne connaissaient pas, qui c'est justement pour se lâcher. Il y a une chose que je dis toujours, quand vous rentrez à la salle, vous devez oublier qu'est-ce qui passait à l'extérieur. Qu'est-ce qui passe ici? On ne dit rien. Qu'est-ce qui passe? Si vous venez ici angoissé ou sur une maison de pleurer, oh, vas-y, lâche-toi. Après, on va continuer à travailler. Et ça passe toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont timides, ils ont du mal à s'exprimer. Et après, ça commence à être de petit à petit, à l'aise, pour discuter, pour se lâcher une improvisation. Que des fois, ce n'est pas évident parce que même si on fait les improvisations avec des collègues ou des camarades et on partage toute l'année le même atelier, des fois, ça fait difficile. Mais bon, ça fonctionne.
Eh ben, on n'en doute pas un seul instant. Sylvio Gagné, on rappelle, un professeur de théâtre à Jeanne d'Arc d'Évreux. On ne doute pas un seul instant de la chose. Benoît, dans cette école de musique où on pratique des instruments, mais aussi le chant, et je sais que c'est peut-être d'ailleurs une pratique qui a une importance particulière pour toi, parce que je t'ai vu accompagner même en dehors du cadre presque de l'école des jeunes tous. Selon toi, qu'est-ce qu'ils viennent chercher certains? Est-ce que c'est un perfectionnement pour certains qui ont balbutié un instrument avant? Est-ce que c'est bien au contraire la découverte de l'instrument? Est-ce que c'est créer du lien et découvrir, comme disait Romain lorsqu'il s'est investi à Sivremoté jouer, c'était de rencontrer moi. Est-ce que tu décèles quelque chose de plus présent dans ces jeunes ou moins jeunes?
Alors, il y a une quelque chose qu'on retrouve dans tous les apprentissages à la MJC. C'est le jeu en collectif, en fait. Et c'est vraiment d'abord ce qu'on a développé comme pédagogie et du coup ce que viennent rechercher immédiatement les élèves quand ils viennent chez nous. C'est qu'on n'entrevoit aucune pratique individuelle. Tout passe par du collectif à un moment dans l'année, que ce soit au début ou au milieu de l'année ou à la fin de l'année. Alors, il y a plusieurs étapes, hein. On n'est pas tout de suite à jouer tous ensemble, mais en tout cas, c'est vraiment la participation et de jouer avec les autres qui nous importe, en fait. C'est d'ailleurs vraiment là-dessus qu'on a axé toute notre pédagogie. On n'a pas envie d'avoir des musiciens qui jouent tout seuls dans leur chambre, ouais. Même s'ils sont très bons, on a envie au contraire qu'ils le partagent avec d'autres, et c'est ce partage qui est important dans notre maison des jeunes et de la culture.
Ça veut dire qu'il y a des groupes qui se sont formés, des duos, des trios, des formations qui sont nées de par un cours, j'imagine, moi, mais est-ce que c'est le cas, Benoît?
Effectivement, il y a des élèves qui étaient dans les cours de la MJC, à qui on a proposé de faire des ateliers collectifs parce que c'est notre pédagogie, et qui après, au-delà de ces ateliers collectifs, ont continué à travailler en groupe, et maintenant ce sont des groupes autonomes qui ne font plus partie forcément de la MJC ou qui continuent à jouer ensemble. Il y a un groupe
Chaka Punk, par exemple.
On aurait bien aimé, non, mais ce sont des amis de la MJC, les Chaka Punk, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a des groupes comme ça qui sont formés, qui continuent à jouer malgré le fait qu'ils ne viennent plus ou qu'ils ne viennent plus tous pratiquer la MJC. C'est aussi en tout cas ce qui est sûr, c'est quand on vient faire de la musique, on vient exister un petit peu, parce que il y a des choses qui se passent en nous. Alors ça marche aussi, ça marche pour le chant évidemment, parce qu'on peut pas se cacher derrière un instrument. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Silvio. Moi, c'est la musique qui m'a fait devenir, par exemple, être au micro d'une radio d'aujourd'hui.
Oui.
parce que quand j'étais gamin, j'étais incapable de prendre la parole devant un groupe de personnes. Je répétais 10 fois ma phrase dans la tête et je la disais pas comme elle devait sortir.
Non, t'arrêtes pas, quoi. Et maintenant, tu parles tout le temps. Mais non, arrête.
Et maintenant, je vais te couper la chic, Silvio. C'est moi qui vais faire. Et oui. Non, mais c'est vrai. C'est une vraie. Voilà, je me suis accompli grâce à la musique. Et je crois que. Je crois que tout le monde a cette possibilité-là, pas que la MJC, mais c'est vraiment un des atouts.
On ne l'a pas dit, Benoît, mais il y a le travail et l'accueil qui se déroule au sein de la MJC, hein, on rappelle, près du Bel et Bas. Mais en fait, il y a aussi beaucoup d'ateliers itinérants. Toi, tes collègues, vous intervenez dans des établissements scolaires,
oui,
par exemple.
On a un dispositif qui fête ses 20 ans cette année et qu'on fêtera au mois de décembre à la MJC, qui s'appelle le Musicobus. Et le Musicobus, il a vocation en fait à amener la musique partout où il n'y en a pas, partout où on nous demande. Donc que ce soit dans les milieux de la petite enfance, les structures, par exemple, petite enfance de l'EPN, que ce soit les écoles du département qui nous demandent de venir travailler avec eux, ou des structures plus spécialisées comme l'hôpital de Navarre, ou même la maison d'arrêt à laquelle on intervient, ou tout centre de loisirs, ou toute structure d'handicapés qui souhaite, milieu spécialisé, qui souhaite préférer profiter de la musique.
On est bien occupé quand on travaille à la MJC.
Oui, et on est content de pouvoir justement s'adresser à toutes ces personnes. Voilà.
Merci Benoît Marguerite. On rappelle, hein, si on est nos gens, amis auditeurs, auditrices, c'est un des professeurs de chant, de musique de la MJC Évreux. Romain, aujourd'hui, on n'a pas parlé. Il y a combien à peu près d'adhérents? On a plusieurs dizaines? On a 2-3 dizaines? On a comment? Parce que on n'est pas sur la quantité. C'est pas ça. On a affaire à des passionnés.
On a affaire à des passionnés, effectivement. Les années précédentes, on était dans la cinquantaine de membres. L'an dernier, avec le premier confinement, ça a été un peu plus difficile. Donc, on est descendu à une quarantaine, un peu plus de 40 membres. Mais c'est toujours des passionnés, toujours des gens qui ont la fibre en fait de jouer, et puis de temps en temps des débutants qui viennent et qui restent. C'est avec grand plaisir, par exemple, que cette année on a revu des gens qui étaient devenus membres juste avant le tout premier confinement et qui sont revenus après le premier confinement et qui reviennent aujourd'hui de nouveau. Et ça, c'est toujours un régal quand on voit qu'il y a des gens qui ont réussi à prendre cette fibre.
Tu disais, toi, que c'était pour découvrir et rencontrer du monde. Bien sûr, tu devais déjà jouer avant de venir. Tu as cherché en fonction sûrement tes centres d'intérêt lorsque tu as découvert si vous mettez jouer ou tu as démarré de jouer avec eux.
Un petit peu des deux.
Ah, d'accord.
Un petit peu des deux. En fait, j'avais déjà pu jouer un peu à des jeux de rôle, mais très peu parce que je manquais d'un cercle qui était vraiment passionné. C'est un milieu qui est assez fermé, malheureusement, et qui repousse certaines personnes à mon grand regret. Donc ici, c'est surtout ça que j'étais venu chercher. À la base, j'étais rôliste. Et puis, j'ai découvert quelques jeux de plateau que je ne connaissais pas. Parce qu'il y a des soirs, on ne peut pas jouer aux jeux de rôle, et puis, je n'ai pas envie de gâcher une soirée. Donc, comme tout le monde, je prends ma soirée, je suis content de jouer à un nouveau jeu, de découvrir quelque chose. Et on découvre un jeu, on y prend du plaisir, puis on achète un jeu. Et puis, un jour, on se dit, j'aime beaucoup les figurines de cet univers-là, j'en achète une, deux, je les ai peintes, et je me suis mis comme ça à la figurine. Et aujourd'hui, je joue à tous les jeux, mais certains, j'avais dit au départ que je ne voulais absolument pas en entendre parler. La figurine, par exemple, au début, je disais non, pas pour moi.
C'était au début.
C'était au début, malheureusement.
Alors, tes adhérents, ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher, parce que c'est quand même un univers un peu de rêve, d'histoire. Est-ce qu'on vient chercher ça? Est-ce que, comme toi, ils viennent chercher à rencontrer du monde? Mais certains sont peut-être venus en bande de copains. Est-ce que tu arrives à déceler, sentir et ressentir, percevoir un petit peu leurs objectifs lorsqu'ils viennent à Sivremote jouer?
Alors, les objectifs, généralement, les gens ont leurs objectifs quand ils y viennent. Il y a des gens qui ne connaissent que le jeu de plateau, qui ne veulent que du jeu de plateau, des gens qui ne veulent que du jeu de rôle, des gens qui ne veulent que du jeu de cartes. On a tout. Le fait est que, on essaie aussi de pousser les gens, mais de les inciter à essayer d'autres choses. Et c'est comme ça qu'ils prennent la fibre et qu'on passe un peu le flambeau. De cette passion hein, qu'est le jeu. Ça nous dévore, évidemment. Et alors, ça peut être parfois, certaines personnes ont une certaine passion pour les jeux, effectivement, plus historiques, avec un certain visuel, on va dire. Et d'autres gens vont avoir une affinité pour les jeux plus simples, plus mécaniques, où on va juste voir des cubes en bois et réfléchir avec des maths. Et on s'aperçoit que les gens finissent par trouver d'autres jeux qui leur plaisent. Alors, c'est toujours un défi quand on a quelqu'un dont on ne sait pas trop ce qui va lui plaire. Il faut essayer un peu tout. Alors, on a un schéma type de fonctionnement quand c'est comme ça. Et on arrive petit à petit à débrider les gens et à les mettre un peu dans les soirées avec nous. Et à la fin, ce qu'on retient, c'est qu'on passe tous un bon moment ensemble, qu'on a tous joué avec un bon esprit sportif.
Alors, la particularité aussi, Romain, je me permets de rebondir là-dessus, c'est la durée aussi, parce qu'en fait, elle n'est pas établie. Je pense qu'on va y revenir avec vous, Claude, c'est un peu la même histoire. Un atelier, il y a un cours. Bon, des fois, on peut déborder, les profs sont sympas, on est lancé sur une partition ou sur un moment qui prend. On ne va pas couper parce que c'est la fin du cours. Je vous imagine comme ça tous les deux. Mais vous, Claude et Romain, on se lance, on ne sait pas quelle heure ça finit, hein, clairement, Romain, des fois.
Alors, quand même, si pour un jeu de plateau, généralement, on en a une idée. Sauf certains jeux très longs où on sait que c'est écrit 3-4 heures sur la boîte. Avec de l'expérience, on sait quand c'est marqué plus de 2 heures sur une boîte, on sait qu'on va prendre 3 ou 4 fois plus de temps. Mais quand on le fait, on est prévenu. Les gens sont des gens qui sont généralement aguerris et qui savent qu'ils sont partis pour une sacrée partie. Après, par exemple, dans le cas d'un jeu de rôle, on a tendance à savoir les mesurer, mais il y a toujours des mauvais calculs qui peuvent être faits. Des parties que je sais, enfin des scénarios que j'ai l'habitude de faire jouer en 3 heures, 4 heures, de plus en plus, je commence à avoir du mal à les faire jouer en 3, 4 heures, peut-être parce que je rajoute plus de détails ou que je jette peut-être plus assez les joueurs, l'un ou l'autre. Mais au bout d'un moment, j'arrive à un moment où ce scénario-là dure 5 heures au lieu de durer 3 heures. Et ça, c'est un peu plus compliqué à jauger. Mais donc sur le jeu de rôle, c'est plus compliqué. Sur le jeu de figurines, les parties sont longues et les joueurs le savent. Généralement, c'est du 2-3 heures facilement.
Et à un moment donné aussi, de manière pratico-pratique, on est accueilli par la LSM. Il y a aussi la sécurité ou l'alarme. Il y a peut-être une horaire de fin aussi, non ?
Alors, on a des horaires fixes qui sont toujours les mêmes. Le vendredi soir à la LSM, à partir de 20h30, jusqu'à 2h du matin. On a les locaux jusqu'à 2h du matin. Après, dans les faits, on termine souvent nos parties un peu avant. Et la plupart du temps, en fait, on arrive à trouver le vendredi soir des parties qui sont en 2h et on enchaîne sur des jeux plus courts après. Et du coup, on se termine vers minuit, minuit et demi. Et ceux qui veulent partir avant peuvent partir avant. Ceux qui veulent partir plus tard, partiront plus tard. Le samedi, on a plus de temps. Le samedi, c'est le bon jour pour les jeux de rôle. On ouvre à partir de 14-15h. Et pareil, on a jusqu'à 2h du matin et on fait une pause pour manger.
Là, on peut avoir des grands ados pour le coup. On est dans le samedi après-midi. Vous en avez un petit peu de grands jeunes
On a quelques grands ados, oui. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des grands ados parce que, en fait, c'est souvent des gens qui. Enfin, des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup joué jusque-là, qui veulent jouer, ils en veulent. Et on leur fait découvrir, nous, nos passions. Alors, on va peut-être pas aller dans les choses les plus complexes dès le début.
Pas pour démarrer.
On leur présente des jeux, on leur présente des classiques. On leur apprend le jeu, on leur apprend cette culture du jeu et des jeux qui nous ont formés. Et on les met et à terme, ça donne des gens qui seront, pour certains, on en a eu, qui sont devenus secrétaires ou trésoriers de l'association. On peut, et pourquoi pas président.
Bien vu, merci.
Et le président de la Bélote. Et vous jouez aussi juste à 5h du matin?
Non, on ne joue pas jusqu'à 5h du matin.
Non, non.
Seulement 2h.
Non, parce que le tournoi de Bridge, il est très rythmé au niveau du temps. Oui, on joue, on a un rythme de jeu de 8 donnes à l'heure.
Alors, une donne, c'est quoi ? C'est un partage de cartes ?
C'est quand on a les cartes en main, on a 13 cartes en main. Chaque joueur a 13 cartes en main.
Ah ben oui.
Et pour jouer ces 13 cartes, y compris, donc, le jeu comporte toujours deux phases. Une phase d'annonce, sur laquelle on définit le meilleur contrat possible. Et ensuite, une phase jeu de la carte. Et la somme de ces deux phases doit être inférieure à 8 minutes. Donc le rythme de jeu, c'est en fait 8 donnes à l'heure. On joue 20, quand on fait un tournoi, on joue 24 donnes, quelquefois un petit peu plus. Donc ce qui fait qu'on joue 3 heures, il faut ajouter les temps morts, bien sûr, les changements de position, etc. Donc en 3 heures et demie, en général, un tournoi s'est plié.
Après, on a parlé de fédération, ça veut dire qu'il y a des tournois pour être champion de Normandie ?
Oui.
D'accord. Et quelles sont les catégories seniors, jeunes
Alors, il y a...
C'est pas au kilo, hein. Là, on n'est pas les moins 65 ou moins 80.
Alors, il y a des tournois qui sont réservés aux joueurs, au niveau des grades des joueurs, donc ce qu'on appelle des joueurs espérance, promotion, honneur.
Et ça, c'est à France d'avoir fait des tournois ?
Oui.
D'accord.
Chaque fois que l'on fait un tournoi, chaque fois que l'on est dans la majorité gagnante, on touche ce que l'on appelle des points d'experts. Et à partir de ces points d'experts, il y a un classement national qui est établi.
Ah oui, d'accord.
J'ai une question un peu naïve pour vous, Claude. C'est l'Internet, le jeu en ligne. Est-ce qu'il existe pour le bridge? Parce qu'on a vu certains jeux de cartes qui se sont développés ainsi, d'autant plus avec le confinement, mais même avant cela, avec l'émergence de l'Internet, est-ce que le bridge se peut se pratiquer en ligne?
Le bridge se pratique beaucoup en ligne.
D'accord, je ne le sais pas. D'accord.
Alors, mais c'est...
En casino aussi?
En casino.
Est-ce que c'est une pratique de casino?
Non, pas de casino.
De d'accord.
Pas de casino. Ça se joue énormément en ligne, avec des sites gratuits ou des sites payants, peu importe, avec... des jeux individuels ou des jeux en paire. Donc, ça se joue beaucoup en ligne. Pendant le Covid, on a été amené... Pendant le Covid, tous les clubs ont été amenés, les clubs qui ont bien voulu, à s'associer à la Fédération française pour ouvrir des tournois sur ce qu'on appelle Real Bridge. Et donc là...
Une plateforme dédiée à la chose, d'accord.
On jouait... C'est assez convivial parce qu'on voyait on voyait tous les joueurs de la table. Et donc, on jouait un peu comme en présentiel,
d'accord.
Sauf qu'on était en virtuel.
D'accord.
Et
c'est intéressant, ça, parce que finalement, vous n'avez pas perdu les contacts avec les gens, quoi. Et ça, c'est important de maintenir.
Oui,
ça,
mais c'est quand même moins convivial que jouer en présentiel.
Ouais. Et oui. Et mon cas, pour exemple, moi, j'ai fait des ateliers aussi pour l'ordinateur. J'ai fait des exercices, j'ai envoyé des textes, mais c'est pas la même
ça
chose.
Ça n'a pas dû vous
c'est
faire
pas, c'est pas, c'est pas la même chose, ouais. Toi. Et on l'a fait pendant un mois, et j'ai dit, non, on arrête, moi je suis désolé, moi aussi c'est présentiel. Comme vous, on est un plateau ici, que c'est moitié joueur de cartes, un autre moitié qu'on s'occupe de donner des ateliers, et moi je dis, Benoît, tu ne peux pas donner des cours par téléphone, à un moment c'est un petit peu compliqué.
Ils ont presque dû faire.
On a quand même beaucoup fait de cours en visio, parce que on voulait garder ce contact avec nos élèves, nos chers élèves. C'était primordial d'ailleurs pour nous. Alors, on ne sait pas trop le sujet de l'émission, mais c'est vrai que garder le contact, ça faisait partie de la mission qu'on avait. Et on a aimé le faire, même si c'était très dur, parce qu'on a surtout aimé quand on s'est retrouvé. Alors, on ne s'était pas perdu. Et ça, c'était vraiment très très bien. Pour nous, en tout cas.
Romain, pardon, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, en fait, nous, ça a été pareil. Pendant le premier confinement, on a été mis à l'arrêt un moment, et puis on a essayé de trouver des solutions. Et pareil, comme pour le bridge, comme pour le théâtre, on a eu des solutions dégradées. Et on a pu vivre comme ça, nous aussi, grâce à beaucoup de manières de jouer en ligne qui existent maintenant. Il y a des outils pour ça, et c'est vrai que c'est quand même une chance. Après, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde ici. C'est pas pareil, c'est pas le même plaisir.
Et tant mieux de finir là-dessus avant qu'on s'accorde une petite pause musicale que de rappeler que pratiquer, que ce soit des ateliers de théâtre, de la musique, des jeux dont on est un peu le héros, des jeux de plateau, des jeux avec figurines en tout cas, et bien sûr aussi jouer au bridge, c'est quand même pas pareil derrière un écran qu'avec des personnes. On va s'accorder une petite pause musicale, on va revenir derrière avec aussi le micro-trottoir tourné par l'ami Jean-Jean, et je vais vous demander le service de bien prêter attention à la chose, même si Romain c'est un peu tronqué, tu y as contribué, mais tu n'étais pas seul, donc du coup il faudra s'il vous plaît bien tendre l'oreille. Petite pause musicale, on se retrouve dans quelques instants. On vous rappelle, on est en direct du Forum des associations de la ville d'Évreux. I'm
Est-ce que jouer, c'est important?
Ah oui. Très, très pour nous, oui.
Alors justement, qu'est-ce que ça vous apporte de jouer?
Beaucoup de plaisir, déjà. De la communication avec les autres, puisque ce n'est pas un jeu individuel. On est déjà à la table, on est quatre, et donc...
Vous êtes à la table de bridge, c'est ça?
Voilà, à la table de bridge. Donc, à la table de bridge, on est quatre, ce n'est pas un jeu individuel. Donc, on joue par paire. Donc, il faut s'entendre avec la paire avec qui on joue. Et pour nous, c'est devenu un besoin d'aller jouer régulièrement.
Oui.
Je suis entièrement d'accord avec mon ami.
Mais ça crée du lien.
Ah oui. Grâce au bridge, par exemple, moi, je me suis retrouvée seule dans ma vie assez de bonheur. Et c'est le bridge qui m'a aidée beaucoup à me sortir de là. Ça m'a vraiment aidée énormément.
Jouer, en musique, on dit toujours donc, jouer d'un instrument, jouer de la batterie, et ça peut être péjoratif en même temps, parce que bien souvent, enfin moi c'est mon métier,
oui.
Et pendant très longtemps, on m'a dit, bon, tu fais de la musique, mais à part ça, tu fais ça, parce que le fait de dire je joue, dans l'esprit des gens, jouer c'est festif, mais ça reste un travail comme un autre. Mais donc ce que ça procure, c'est un réel plaisir, hein, quand on arrive à jouer de son instrument avec une certaine dextérité, hein, c'est comme en sport, ça apporte un plaisir certain de pouvoir jouer avec les autres. C'est un instrument d'accompagnement, donc on partage un plaisir avec les autres, donc très important ça. Ouais, moi c'est mon ressenti.
Quand on joue d'un instrument, ça crée du lien aussi.
Ah oui. Encore plus la batterie, dans la mesure où c'est un instrument d'accompagnement, donc ça crée un lien avec les autres instrumentistes, le pianiste, le guitariste. Ah oui, très important. Et puis la musique, c'est un partage. Hein. Jouer seul dans sa chambre, ça va un moment quand même. Hein. Mais c'est vraiment un partage, un lien avec d'autres personnes. Quoi.
On dit aussi que c'est un langage universel.
Oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Quelles que soient vos origines, votre nationalité.
J'ai envie de dire au contraire, d'ailleurs.
Ah oui, bien sûr.
Le mélange est aussi des musiques, je dirais ethniques ou pas. Enfin,
bien sûr. Ouais. Et moi, par expérience, il m'est arrivé de jouer avec des gens où on ne partageait pas la même langue, par exemple, ou la même culture. Et à partir du moment où on est derrière notre instrument, ça y est, on part. pas, on discute, on joue, quoi.
Voilà.
Voilà, on communique, exactement.
Et qu'est-ce que ça t'apporte, de, par exemple, de jouer aux échecs? Ça t'apporte quoi, pour toi?
C'est la joie.
Et quoi d'autre?
Le club, comme dit, c'est du jeu. C'est la fin de finesse que je jouer.
Ouais.
Et c'est tout.
Très bien.
Et
le papa? Qu'est-ce que ça... Vous jouez également?
Oui.
Qu'est-ce que ça vous apporte de jouer?
Ça me détend, déjà.
Bien sûr,
ça me change un petit peu les idées. Et c'est important pour les enfants aussi. On met un jeu pour les enfants.
Oui.
Ça aide à développer la logique. En fait, on est une association qui s'occupe principalement de jeux de société divers et variés. Ça peut être des jeux de plateau, ça peut être des jeux de figurines, des jeux de rôle, ou même des jeux de cartes. En fait, globalement, déjà, c'est un moteur de lien social qui est très important, surtout après ce qu'on a tous vécu, je pense. Nous-mêmes, on a essayé de faire en sorte de pouvoir continuer à jouer pendant les différents confinements en distanciel, par Internet. On a réussi à trouver des moyens de continuer à jouer grâce à Internet. Autre point, ça permet aussi de se développer et de continuer de faire tourner les méninges. Parce que les jeux sont de plus en plus élaborés de nos jours. Et qu'au bout d'un moment, ben, on réfléchit, parfois sur plusieurs plans, on est capable de réfléchir avec des règles plus ou moins compliquées. Et on arrive à avoir des jeux qui vont être beaucoup plus stratégiques, d'autres qui vont être plus dans la planification, d'autres qui vont être beaucoup plus dans la réaction rapide, d'autres sur de l'improvisation pure et simple, ou sur un jeu de rôle par exemple, ça peut être aussi, ça peut développer le sens du théâtre.
Ce qu'il a dit, c'est un moyen de s'évader, par exemple, comme il a dit, je fais beaucoup de jeux de rôle.
Oui.
Donc c'est un bon moyen, par exemple, de s'évader comme font un leak, en prenant le rôle de son personnage, c'est un côté théâtral.
Très intéressant ce micro-trottoir réalisé par Jean-Jean. Merci camarade pour ce don de voix à récolter et chercher. Je vous rappelle qu'on est en direct du Pont des Associations, que j'ai le plaisir d'être avec Silvio Gannet, professeur de théâtre à Jeanne d'Arc d'Evreux, une figure hébroïcienne, avec Benoît Marguerite, là aussi une figure hébroïcienne, professeur de musique et pas que de chant à la MJC, avec la découverte très agréable de Romain Courtès, qui lui est le président de Si Evreux m'était joué. Et puis, je découvre avec grand bonheur aussi Claude Couvoute, du Evreux Bridge Club. Messieurs, avant toute chose, est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir dans ce qu'on vient d'entendre? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez relevées et dans lesquelles vous vous retrouvez, ou absolument pas, et qui vous choquent, inversement?
Pas choqué, nous, par rapport au théâtre, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont hyper sympas, des moments que... On va improviser, il part pour un autre côté pour que ça n'a rien à voir avec ce que j'avais demandé. Mais il y a une chose qui c'était génial. Il y a 3-4 ans, on avait fait la pièce de théâtre à fin d'année. Et ça durait 1h10, à peu près. Ben, la pièce, ça durait 50 minutes. Parce qu'il y a un comédien qui était tellement énervé qu'à un moment, il rentrait avant de une scène qui... presque c'était la fin, quoi. Et tout le monde, il est resté, il a suivi, malheureusement, on a perdu une quinzaine minutes de la pièce. Les publics, ils sont fichés pour qu'ils ne savaient pas. Ça veut dire, voilà, on est rentré à la loge un petit peu plus avant, et voilà, et la troisième mi-temps, c'était magnifique. Donc ça, c'était très, 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 très chouette. Au départ, il était très, très embêté, ces comédiennes, parce qu'il était tellement énervé. Il est rentré, les autres se sont regardés. Il y a une merde, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Heureusement qu'ils sont là suivis. Et voilà, et on a eu quelques scènes un petit peu, qui sont restées pour nous tout seuls.
Merci Sylvain, très belle anecdote. Messieurs, sur le micro-trottoir, on a entendu des mots comme joie, détente, rencontre. C'est des mots qu'on a évoqués tout à l'heure, mais il y a même concentration, je crois, avoir entendu. Est-ce que c'est des choses comme ça, vous, messieurs, plus autour des cartes, dans lesquelles vous vous retrouvez?
De toute façon, je pense que tout le monde a bien exprimé la passion dont son activité fait l'objet. Et chacun s'en est exprimé très librement. On sent que ce sont tous des passionnés de ce qu'ils font.
Il y a même eu un exemple de personne qui dit moi, je me suis retrouvé, sans entrer dans les détails, mais c'est elle qui nous le confie, hein, s'est retrouvé assez tôt seul dans la vie. Eh bien, c'est le club de bridge, ou le vôtre, je crois, en plus, hein, qui est, pour le coup, oui. C'est une adhérente qui a été interviewée complètement par hasard. Eh bien, qui dit non, mais moi, ça m'a presque sauvé. En tout cas, ça m'a aidé.
Voilà, tout à fait.
C'est quand même grand dans ces cas-là, Claude. Ça donne beaucoup de sens à sa pratique et à son investissement.
C'est très important, effectivement. Il y a l'aspect social qui n'est pas à oublier là-dedans et qui est, à mon avis, primordial.
Donc, j'avais dit, hein, si on en rejoint encore de discussion, c'est qu'au-delà des rendez-vous et des parties, multiples parties, en fait, il y a souvent des moments
de convivialité.
Ouais, de convivialité.
Convivialité.
Romain, toi, bon, on t'a entendu, petite anecdote, mais c'est vrai, voilà, au sortir de cette crise où on nous a un peu éloignés les uns les autres, on a utilisé davantage d'écran sans se rapprocher, on ne pouvait pas, hein, c'était pas simple. Au-delà de ça, la concentration, la créativité peut-être, lorsqu'on imagine ta pratique, votre pratique, à Sièvres Métiers Jouets.
Alors effectivement, la concentration parfois ça peut être assez impressionnant quand on a des jeux un peu qui demandent de faire un peu de mathématiques. Hein. Je pense à certains jeux, hier on a fait une partie de Century où à un moment je me suis retrouvé à calculer pendant 2-3 minutes quel était le meilleur coup à jouer. Hein. J'ai honte d'ailleurs pour mes partenaires de jeu qui ont attendu du coup pendant 2-3 minutes sans pouvoir rien faire. On peut également avoir des moments quand on peint où on est très concentré sur ce qu'on fait lorsqu'on est figuriniste ou même quand on doit calculer un bon coup à jouer sur un jeu de plateau ou sur un jeu de figurines. Ça peut parfois, ça demande de la concentration, ça demande de l'expérience parce qu'au début on va se planter, il faut le savoir, et puis on va faire des erreurs qui vont être punies par le joueur en face. Mais on progresse et on aime progresser toujours, donc il y a aussi ce plaisir là.
Benoît, tu t'es retrouvé dans les propos de ceux de tes camarades de table et dans le micro-trottoir?
Oui, évidemment, le partage qui ressort de ce qu'on a entendu, la joie de jouer ensemble, le plaisir pris à jouer ensemble, surtout ce mot plaisir, quoi, parce que avant tout, le jeu, c'est ça, c'est quand même du plaisir, même si on apprend à jouer. Même si on réfléchit, même si on doit faire attention à comment on joue si on veut bien jouer, que ce soit la musique, les cartes ou les jeux de rôle ou le théâtre, parce que s'il y a une discipline dans le théâtre qui est, voilà, il y a des clés, il y a des choses à respecter et puis des attitudes à suivre, même si on ne comprend pas tout le temps Silvio.
Je n'ai pas compris.
Il y a avant tout, c'est le plaisir pris à faire les choses pour soi et pour les autres.
On a entendu un batteur dire que c'est vrai que c'est un langage universel, la note de musique.
Tout à fait. Et peu importe. Enfin, c'est une langue qui se comprend partout. Hein, ouais. On n'a pas besoin de.
Benoît, justement, tiens, je te garde avant qu'on enchaîne. On a déjà une belle petite anecdote de la part de Silvio. Des anecdotes comme ça de jeunes qui se sont révélés ou qui sont devenus eux-mêmes peut-être professeurs de musique parce que ça fait quelques années que tu exerces, ou alors qui sont devenus multi-instrumentistes, ou alors qui avaient une voix de casserole et qui au final se retrouvent chanteurs d'opéra. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça
voix de casserole? Non, parce qu'il y en a pas vraiment des voix de casserole.
Pas de chez toi.
On a chacun notre voix, enfin, on porte chacun nos casseroles aussi, mais c'est plus une voix de casserole. Non. Par contre, oui, effectivement, on a eu la joie il y a quelques années d'avoir une élève en chant qui est apparue sur The Voice,
oui,
et qui a porté haut les couleurs de la MJC, parce que on était tous très fiers et de la ville d'Evreux, on était tous très fiers de l'avoir et pour avoir pu la coacher un petit peu, c'était vraiment que du plaisir.
Elle est venue quoi d'ailleurs, cette jeunette?
Alors cette jeune Loumaï, elle fait toujours partie de la vie musicale, mais elle est plutôt sur Paris et elle mène de fond des études d'architecture et elle travaille dans le milieu de l'architecte. Donc
c'est dur de s'adonner aussi à sa passion pour le jeu.
Oui, c'est ça, il faut réussir à vivre quand même. Donc je pense qu'elle a fait le bon choix au moment où elle l'a fait, qui était de quand même avoir un avenir au-delà des maisons de disques qui font un peu ce qu'ils veulent des jeunes.
Ça va, c'est
voilà. On pourrait en parler pendant longtemps. J'ai aussi effectivement eu le plaisir d'avoir, et pas que moi, mais des élèves depuis longtemps qui sont devenus des professeurs aujourd'hui. Et ça, c'est toujours un aboutissement quand on voit... Quand on voit des gens qui viennent prendre notre place, quoi. Ça, c'est vraiment super. On a aussi, je parle de Silvio parce que sa fille a chanté il y a quelques années, enfin il y a très longtemps, 15 ans à la MJC, une quinzaine d'années, et on a par exemple eu la chance d'enregistrer avec le groupe Indochine à l'époque. Dans les studios du Bexon, Silvio s'en souvient sûrement, on a été à Bercy chanter sur la scène de Bercy.
C'était une
expérience énorme.
Je ne savais pas ça.
Oui. On est sur un album, sur plusieurs titres de l'album Alice et June, et c'est des moments dont tout le monde se souvient encore. On a gardé un lien fort à cause de ces expériences, c'est vraiment génial.
Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment j'ai fait ça, ils sont passés à la télé, c'est parti dans l'Indochine, au stade. Ma fille et maman, elle n'était pas là, elle n'était pas à la maison. Et, écoute, il s'en est revenu tout d'un coup. Quoi.
Oui, le concert avait été filmé. Oui.
Et puis j'imagine aussi, et ça peut faire très plaisir aux passionnés que tu es, Benoît. Peut-être aussi dans ces interventions d'établissements scolaires qui n'ont pas toujours accès à ces écoles de musique, à des associations compétentes et très investies, d'avoir suscité l'envie de se rapprocher justement d'un conservatoire, d'une école de musique ou d'un cours. Oui. Est-ce que c'est arrivé ça? J'imagine très souvent.
Oui, ça arrive.
Tu ne le sais peut-être pas toujours.
Non, je ne le sais pas toujours parce que quand on intervient dans les écoles, on a envie de donner cette envie justement aux enfants de continuer à faire de la musique. Ils ne le font pas forcément à la MJC.
Ouais.
Donc je ne suis pas au courant, on ne va pas faire. On ne vend pas la MJC quand
mais
on
non.
y va.
Vous êtes dans tout le département.
Et on est dans tout le département, donc ils ont accès à plein d'autres écoles de musique. Et par contre, on sait qu'il y a un paquet qui s'inscrit, mais des fois, on ne les voit pas pendant 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, ils viennent toquer à la porte de la MJC en disant « Tu te souviens, tu m'as fait la musique dans la classe de telle école ?» Et c'est, là, c'est vraiment un plaisir.
Enfin, grave, là, il y a quelque chose de gagné. J'allais dire Vincent. Claude de Evrebridge Club, pardon, président, pour rappel. Des petites anecdotes, est-ce que vous en avez
Il y a des anecdotes, oui, mais elles sont quelquefois négatives. C'est-à-dire qu'on a quelquefois une paire qui se met à se disputer parce qu'il y a une coquille dans l'annonce, une coquille dans le jeu de la carte. On a mal joué la carte, on a mal joué le contrat. Donc, de temps en temps, il y a un petit peu de scène de mauvaise une.
Voilà, il y a un peu de
relation scolaire, un coup de colère. Ouais. Mais ça ne dure pas.
Ouais,
en général, ça ne dure pas. On passe à la zone suivante, on oublie et on essaie de s'appliquer, de faire mieux la prochaine fois. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que les joueurs, dès qu'ils sont passionnés par cette activité, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à évoluer. Et non pas forcément dans la qualité de leur jeu, mais ils cherchent à faire partager leur passion à d'autres. Donc, ils deviennent moniteurs, initiateurs, de façon à faire partager, à faire connaître cette passion à d'autres joueurs, ce qui nous facilite aussi, bien sûr, le recrutement. C'est très important parce que notre population est plutôt vieillissante. On a du mal à accrocher les jeunes. Et les initiateurs scolaires, notamment, sont des gens très importants, très influents pour la continuité du bridge.
Vincent, pardon Claude, on ne va peut-être pas avoir le temps de reparler avec vous. Comment on contacte le club si on est intéressé, là, suite à nos propos?
Venez nous voir.
Oui, on parle des infos, mais sinon, est-ce qu'il y a les réseaux sociaux qui font le boulot aussi? Vous avez un site Facebook?
Il y a un site, mais il y a le site du comité, il y a le site du club, le site
et
du club.
Et bien, un numéro de téléphone, forcément. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous, Vincent Kouvout, très agréable et très sympathique. Romain, de Sièvre m'était joué, une petite anecdote sympa, justement, aussi. Est-ce que ça a suscité des vocations ou un jeune qui jouait a ouvert sa boutique de jeux? Comment c'est? On a peut-être une petite quand même.
Alors, le problème, c'est qu'on en a beaucoup des anecdotes. Ah. Presque chaque soirée pourrait nous donner une anecdote. Là, je pense plutôt à la personne qui était présidente lorsque je suis arrivé à l'association et à Évreux, qui était également un collègue de travail. Donc, c'était le président de Sièvre Météo Joué qui aujourd'hui, c'est Sièvre Météo Joué qui l'a rencontré sa femme et ils ont eu un enfant il y a très peu. Donc, je pense que c'est la plus belle chose que je peux dire.
Ah oui, c'est pas mal. Eh ben, elle est très belle celle-ci. Sièvre Météo Joué, on contacte comment si on est intéressé par découvrir ce bel univers et si riche parce qu'il est très riche cet univers du jeu.
Alors, on a un Facebook, Sièvre Météo Joué, vous cherchez sur Facebook, vous trouverez. Il n'y a pas de souci. Sinon, on a un site, cemej.free.fr. N'hésitez pas.
Cemej, voilà. C-E-M-E-J. C'est ça.
Exactement.
Merci beaucoup, Romain Courtès de Sièvre Météo Joué, président. Merci beaucoup pour cet éclairage. Benoît, on a évoqué des choses. Loumeil,
oui.
Loumeil qui était développé. Comment on se rapproche de toi, la MJC, là sur le week-end, on peut se renseigner ici, mais sinon on va s'inscrire à la MJC directement.
C'est ça, on est présent sur le forum bien sûr, mais nous faisons les inscriptions à la MJC directement. C'est à quelques pas d'ici, sur le Pré du Bel Eva. Et puis vous pouvez bien sûr consulter le site mjc-evreux.fr qui vous allez retrouver tous les renseignements et les moyens de nous contacter pour venir vous inscrire et venir partager le plaisir de jouer la musique.
Merci à toi aussi Benoît, ami auditeur auditrice, vous ne pouvez pas vous louper si vous rapprochez de la MJC, vous aurez affaire à des passionnés qui vous accompagneront de belle manière. Sibio, on peut aussi s'inscrire aujourd'hui, demain, sur le site au forum des associations.
Vous passez pour chez moi, et la porte est toujours ouverte.
95,
oui. Voilà, ça passe très bien. Non, c'est vrai, vous venez à la Jeanne d'Arc, il y a tous les renseignements, les ateliers sont lundi, mardi soir pour les adultes, il y a tous les mercredis dans l'après-midi pour les enfants et adolescents, il y a pas de problème.
En tout cas, on se loupe pas, hein, pareil, quand on vient, on se rapproche de vous. Benoît, il peut le confirmer, il connaît un petit peu le personnage. Personnage haut en couleur, hautement qualifié, surtout très passionné, et on a besoin
et
de
vous n'avez jamais entendu chanter à Benoît?
Bah non.
Catastrophique.
C'est bon, bon.
Merci beaucoup. Hein.
Merci beaucoup, Silvio. Merci, Benoît. Merci, Romain. Merci, Claude. On va libérer la parole. On va laisser place au Bureau d'information jeunesse à la ville d'Évreux avec l'ami Maxime. Et puis, nous, on va revenir dans quelques minutes autour de 16h30 sur un. Autour de l'innovation. Mais je ne vous en dis pas trop. J'y sais manière la chose de belle manière. Merci à vous de votre attention. On est en direct du Forum des Assos et on est bien.